20. Harry Seldon se rencoigna dans son fauteuil au fond de l'alcôve qui lui avait été assignée grâce à l'intervention de Dors Venabili. Il était mécontent. À vrai dire, bien que ce fût l'expression qu'il utilisait mentalement, il savait que c'était un euphémisme. Il n'était pas seulement mécontent, il était furieux. Et d'autant plus qu'il ne savait pas au juste pourquoi. Était-ce à cause de l'histoire ? Des chroniqueurs et d'autres compilateurs d'histoire, des mondes et des gens qui faisaient cette histoire? Quelle que fût la cible de sa fureur, peu importait. Ce qui comptait, c'était que ses notes étaient inutiles. Inutiles son savoir tout neuf. Tout était inutile. Cela faisait près de 6 semaines qu'il était à l'université. Dès le début, il était parvenu à trouver un terminal d'ordinateur avec lequel il s'était mis au travail, sans instruction, d'instinct, grâce au métier acquis au prix d'années de labeur mathématique, un travail lent et éprouvant, mais il y avait un certain plaisir à définir graduellement les itinéraires par lesquels il pourrait obtenir des réponses à ses questions. Puis vint la semaine de formation avec Dors, qui lui avait enseigné plusieurs douzaines de raccourcis et lui avait procuré deux sortes d'embarras. Le premier, c'était les regards appuyés des étudiants de première année, qui ne semblait pas se gêner pour mépriser son âge, et acceptait mal que Dors ne manque jamais de l'appeler solennellement « docteur » chaque fois qu'elle s'adressait à lui. « Je n'ai pas envie, » avait-elle dit pour se justifier, « qu'il vous prenne pour un de ces éternels étudiants attardés, inscrits en cours de rattrapage d'histoire. » Mais depuis le temps, ils ont dû comprendre. Je suis sûr qu'un simple Seldon suffirait à présent. Non. Et Dors sourit soudain. En outre, j'aime bien vous appeler docteur Seldon. J'aime votre air gêné à chaque fois. Vous avez un sens de l'humour particulièrement sadique. Vous voudriez m'en priver ? Bizarrement, cette remarque le fit rire. Sans nul doute, la réaction naturelle aurait été de dénier l'accusation de sadisme. D'une certaine manière, il trouvait plaisant qu'elle saisisse la balle au bond et la lui renvoie illico. L'idée le conduisit naturellement à poser la question. « Jouez-vous au tennis sur le campus ?»« Nous avons des cours, mais je ne joue pas. »« Bien. Je vous donnerai des leçons. Et pendant mon cours, je vous appellerai professeur Venabili. C'est ainsi que vous m'appelez en classe, de toute façon. Vous serez surprise du ridicule que cela peut avoir sur un cours de tennis. Ça finira peut-être par me plaire, auquel cas je tâcherai de trouver autre chose qui ne vous plaise pas. Je vois que vous avez un sens de l'humour particulièrement salace. » Elle avait délibérément renvoyé la balle sur ce terrain, et il répliqua aussitôt « Voudriez-vous m'en priver ?» Elle sourit, et plus tard se montra étonnamment douée derrière le filet. « Vous êtes sûr de n'y avoir jamais joué ? » demanda-t-il hors d'haleine à l'issue de la première leçon. « Affirmatif !» L'autre sujet d'embarras était plus intime. Il avait appris les techniques nécessaires à la recherche historique, puis brûlé, en privé, ses tentatives initiales pour se servir de la mémoire de l'ordinateur. C'était tout simplement une tournure d'esprit radicalement différente de celle qui sert en mathématiques. Tout aussi logique, supposait-il, puisqu'elle était opérationnelle, lui permettant de se mouvoir dans les directions de son choix sans risque d'erreur. Mais il s'agissait d'une forme de logique fondamentalement étrangère à celle dont il avait l'habitude. Mais avec ou sans instruction, qu'il trébuche ou progresse avec aisance, il n'obtenait tout bonnement aucun résultat. Son embarras se faisait sentir jusque sur le court de tennis. Dors atteignit rapidement le stade où il n'était plus nécessaire de lui renvoyer des balles faciles pour lui laisser le temps d'estimer l'angle et la distance. Il en oublia d'autant plus vite qu'elle était une débutante et exprima sa colère en lui réexpédiant la balle comme un faisceau laser matérialisé. Elle monta au filet en trottinant et lança « Je comprends sans peine votre désir de me tuer, vu que vous devez vous lasser de me voir rater autant de balles. Mais enfin, comment se fait-il ce coup-ci que vous soyez parvenu à manquer ma tête de 3 bons centimètres ? Je veux dire, vous ne m'avez même pas effleuré. Vous êtes sûr que vous ne pouvez pas faire mieux ?» Horrifié, Seldon voulut s'expliquer, mais ne parvint qu'à bafouiller avec embarras. « Bon, écoutez, » lui dit-elle, « je ne suis pas de taille à encaisser un autre de vos retours aujourd'hui. Alors si on allait plutôt prendre une douche avant de se retrouver autour d'une tasse de thé, que vous m'expliquiez ce que, diantre, vous essayez de tuer, Si ce n'est pas ma pauvre tête et si vous n'arrivez pas à identifier votre véritable ennemi, vous allez être trop dangereux de l'autre côté du filet pour que je continue à vous servir de cible. » Pendant qu'il prenait le thé, il lui confia. « Dorse, j'ai parcouru tous les manuels d'histoire, simplement parcouru en vitesse. Je n'ai pas encore eu le temps de les étudier en profondeur. Même ainsi, il y a une évidence. Tous les vidéolivres se concentrent sur le même petit nombre d'événements. Les événements cruciaux, ceux qui font l'histoire, ce n'est qu'une excuse. Ils se recopient mutuellement. Il y a 25 millions de mondes là-haut, et ils ne font des mises au point un peu substantielles que pour 25 d'entre eux peut-être. Vous ne lisez que les manuels généraux d'histoire galactique. Examinez l'histoire spécifique de certaines planètes mineures. Sur chacune, si petite soit-elle, on apprend aux enfants l'histoire locale avant même qu'ils ne découvrent l'existence d'une vaste galaxie autour d'eux. Vous-même, n'en savez-vous pas plus sur Helicon que vous n'en savez sur l'ascension de Trantor ou la Grande Guerre interstellaire ? Ce genre de connaissance est également limité, remarqua Seldon Mossad. Je connais la géographie d'Helicon, l'histoire de sa colonisation, les faits et méfaits de la planète Génisec. C'est notre ennemi traditionnel, bien que nos professeurs aient pris soin de nous répéter qu'il fallait dire rival traditionnel. Mais je n'ai jamais appris quoi que ce soit sur la contribution d'Helicon à l'histoire générale de la galaxie. Peut-être n'y en a-t-il eu aucune ? Ne soyez pas stupide. Bien sûr qu'il y en a une. Helicon n'a peut-être pas été mêlée à de gigantesques batailles, à des rébellions cruciales ou à des traités de paix. Elle n'a peut-être pas servi de base à quelques prétendants au trône impérial, mais il doit bien y avoir eu de subtiles influences. À l'évidence, rien ne peut se produire où que ce soit sans conséquence pour le reste de l'univers. Pourtant, je ne trouve rien qui puisse m'aider. Tenez, Dorse. En mathématiques, on peut absolument tout trouver dans l'ordinateur, tout ce que nous savons ou avons découvert depuis 20 000 ans. En histoire, c'est différent. Les historiens sélectionnent et choisissent, et chacun d'eux sélectionne et choisit la même chose que les autres. Mais Harry, les mathématiques sont quelque chose d'ordonné, inventé par l'homme. Tout s'enchaîne logiquement. Il y a des définitions et des axiomes tous bien connus. L'ensemble est, disons, tout d'une pièce. L'histoire est différente. Elle est l'œuvre inconsciente des actes et des pensées de trillions d'êtres humains. Les historiens sont bien obligés de choisir et de sélectionner. « Exactement, » dit Seldon. « Mais je dois connaître l'intégralité de l'histoire si je veux mettre au jour les lois de la psychohistoire. » « En ce cas, vous ne formulerez jamais les lois de la psychohistoire. » Cela se passait la veille. À présent, Seldon était assis dans son alcôve après une nouvelle journée d'échecs complets, et il entendait encore la voix de Dorse lui disant « En ce cas, vous ne formulerez jamais les lois de la psychohistoire. » Ça avait été son opinion initiale, et s'il n'y avait pas eu Amin convaincu du contraire et son étrange aptitude à lui faire partager cette conviction, Seldon aurait continué à penser de la sorte. Et pourtant, il ne pouvait pas non plus renoncer. Peut-être y avait-il une issue ? Pour l'heure, il ne pouvait en imaginer aucune.